J'espère que vous allez bien. Enfin, un peu de beau temps à l'extérieur. Et on va ouvrir ensemble notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13. Livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13. Je me réjouis d'être là devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu qui concerne une personne appelée Jean-Marc. Et on va étudier un petit peu son histoire parce que Dieu veut nous dire quelque chose par là. C'est dans le livre des Actes au chapitre 13. Vous y êtes? On peut prendre ensemble la lecture. À partir du verset 2. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc, pardon, envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Un petit peu plus loin, au verset 13, il est dit, Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos. Ils arrivèrent à Perge, en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Il n'y a pas que des héros, il n'y a pas que des champions chez les disciples. Hein. Il y en a quelques-uns qui craquent aussi. Après quelque temps, ça c'est dans Actes 15 au verset 36. Après quelque temps, là on se retrouve 2 ans plus tard, Paul dit à Barnabas, partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc, et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie, qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leurs désaccords furent si profonds qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Amen. Alors, le thème de ce matin, je voudrais partir de quelque chose que j'ai réalisé ces derniers jours, c'est comment on rebondit après un échec, mais pas seulement après un échec de plus. Parce qu'on est tous amenés un jour à vivre un échec et à rebondir après cela. Sauf que ça devient plus gênant quand c'est une succession d'échecs. Parce qu'il se crée une spirale de descente dans votre vie où vous vous posez la question si vous êtes vraiment en train de marcher de progrès en progrès. Vous avez peut-être des difficultés à tenir vos engagements en termes de sérieux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais il y a des domaines dans notre vie où lorsqu'on a un échec, ce n'est pas la faute des autres, c'est la nôtre. Et il faut être très honnête avec cela, et si on n'est pas honnête ce matin, on ne s'en sortira pas. Il y a des domaines dans lesquels on fait des promesses à Dieu. Peut-être je suis le seul à ne pas les tenir. Mais un jour, on se regarde dans la glace de Dieu et on dit, waouh, Seigneur, la Bible me dit que je marche de progrès en progrès, que tu formes en moi l'image de Christ, et ce n'est pas ce que je vois dans la glace. Est-ce que ça vous est arrivé de promettre à Dieu des choses par rapport à votre vie dans le domaine de la sanctification, par rapport à votre sérieux au travail, par rapport à votre sérieux dans la façon de gérer vos enfants, par rapport à votre engagement sur vos finances, par rapport à Dieu. Et là, vous êtes en face du regard de Dieu, et ce n'est pas la première fois que vous ne tenez pas la promesse. Alors comment Jean-Marc va trouver la force de rebondir? Parce que l'histoire de Jean-Marc ne s'arrête pas là dans la Bible. Alors le programme de ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour la vie de Jean-Marc qui est réaliste et motivant? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie qui soit réaliste et motivant pour que tu t'en sortes? Est-ce que vous connaissez Jean-Marc? On n'en parle pas beaucoup dans la Bible, hein? Ce personnage, Jean-Marc. Premier point, on va voir juste son caractère, son histoire. C'est un jeune homme de culture juive, donc il est né à Jérusalem. Parce qu'il y a un texte qui nous en parle, c'est dans Actes 12. Ne cherchez pas, je vous lis simplement. Vous savez que quand l'apôtre Pierre, au tout début de l'Église primitive, a été emmené en prison, et d'ailleurs il a cru qu'il allait y mourir. Quelque temps avant, Jacques avait été décapité par Hérode. Et l'apôtre Pierre est amené en prison. Et alors qu'il sort de prison parce que les anges lui ont ouvert la porte, alors seulement Pierre prit ses esprits et se dit: Ah, maintenant je vois bien, c'est vrai, le Seigneur a envoyé un ange qui m'a délivré de les mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire donc le peuple juif intégriste qui était là. Verset 12, il dit: Après réflexion, Pierre se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Alors l'histoire de Jean-Marc, c'est une maman juive plus très pieuse, très très pieuse, une femme de Dieu. Je voudrais rajouter, qui parmi vous ce matin, si des personnes de cette église avaient été mises à mort, décapitées, seraient prêtes à tenir une réunion secrète pour récupérer le culte du dimanche? En sachant qu'à tout moment, les autorités pourraient venir, non seulement pour fermer la maison, mais en tant que responsable de la maison, vous seriez la première à passer. Donc, organiser des cellules de prière, c'est quelque chose. Mais organiser une cellule de prière, alors que celui qui l'a fait avant vous a été découpé en deux quelques jours avant, il n'y a plus grand monde qui est motivé. Ça veut dire quoi sur le caractère de la maman de Jean-Marc? Une femme d'un courage exemplaire. Une femme d'un courage exemplaire parce que c'est chez elle que les disciples. Il y a quelques disciples qui devaient avoir des maisons quand même. Je me dis que cette femme était probablement plus courageuse que les 10 disciples qui restaient. Cette femme, elle était prête à mettre en jeu sa vie. Et un petit peu avant, on le voit aussi, Jean-Marc qui est certainement à côté de l'apôtre Pierre lorsqu'il est à Capernaum, c'est-à-dire que c'était une femme qui devait avoir beaucoup de richesses parce qu'il semble qu'il y ait plusieurs propriétés. Et Jean-Marc, on va le voir un petit peu plus tard, c'est quelqu'un qui a une excellente connaissance du grec. Excellente connaissance du grec. Et ça, c'est assez atypique pour une famille en Israël à l'an 30 après Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maman, certainement, a de l'argent quand même. Et il y a eu une grande éducation derrière. Que maman a financé des études pour que le petit Jean-Marc puisse avoir une belle vie. Alors je trouve, lorsque je fais la synthèse, qu'il a bien de la chance, ce Jean-Marc, d'avoir une femme qui est courageuse comme maman, extrêmement courageuse. Une femme qui a les moyens financiers et qui est très généreuse, qui met à disposition des disciples ses biens, etc. Waouh, la barre est haute. Encore mieux, dans le pédigré de Jean-Marc, il y a un autre endroit où on voit que ce garçon est vraiment béni, c'est dans Colossiens 4:10, il est dit à propos d'un cousin Barnabas. Barnabas, vous connaissez Barnabas? Quel homme de Dieu, Barnabas! C'est celui qui s'est levé avec l'apôtre Paul. Barnabas, c'est un des principaux orateurs. Peut-être le meilleur prédicateur, parce que l'apôtre Paul ne prêchait pas quand il était avec Barnabas. L'apôtre Paul se mettait de côté, parce que Barnabas avait une voix bien plus claire, était bien plus éloquent. Le meilleur prédicateur, ce n'était pas l'apôtre Paul, c'était Barnabas. Et Barnabas avait un cousin qui s'appelait Jean-Marc. C'est-à-dire que Jean-Marc a une maman en or et un cousin qui est le meilleur prédicateur de l'époque. Alors quand j'arrive à ce voyage que l'on a lu aujourd'hui, premier voyage missionnaire, cousin Barnabas prend le jeune Jean-Marc avec lui, qui les lâche? qui les lâche. Et je me dis, mais t'as pas honte? T'as une maman qui était prête à donner sa vie? T'as une maman qui a accueilli l'église primitive alors que Jacques venait de se faire décapiter? Et toi, tu te retrouves dans un voyage missionnaire avec l'apôtre Paul et Barnabas. T'as des super études bibliques. Et puis, si vous voyez juste un petit peu ce qui vient de se passer, il y a un miracle extraordinaire. Il y a le proconsul de Lille qui vient de donner son cœur au Seigneur après un miracle incroyable. Et c'est à ce moment-là que ce lâcheur de Jean-Marc abandonne. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le caractère de Jean-Marc pour que, bien qu'ayant des modèles d'une telle qualité, ne tiennent pas la route? Alors, je voudrais parler à tous ceux qui, dans cette salle, ont une famille qui est pour eux, ou des grands-parents, peut-être un frère, une sœur, qui est pour eux, vous, un modèle. Est-ce que ça vous tire vers le haut ou pas? La plupart d'entre vous, vous allez dire oui. Et je dis bien la plupart parce que je voudrais creuser un petit peu ce qui se passe. Si jamais les modèles que vous avez autour de vous sont très très hauts, vous avez parfois le sentiment de ne pas être à la hauteur. Non, c'est vrai, ça vous arrive aussi. Quand vous êtes confronté à des personnes qui sont des personnes de prière incroyables, vous les voyez prendre leur Bible chaque jour, vous les voyez prendre un temps avec Dieu et vous êtes là dans votre salon à regarder la télé et vous dites « je suis nul ». Lorsque on est confronté des fois à des personnes qui sont pour nous des modèles, ça met en évidence nos limites. D'ailleurs, si je reprends un petit peu plus le texte que l'on avait lu au tout début, vous vous rappelez ce qui était dit au tout début? Envoyé par le Saint-Esprit, qui le Saint-Esprit a envoyé? Barnabas et Paul. Le Saint-Esprit n'a pas dit d'envoyer Jean-Marc, vous voyez ce que je veux dire? Mais Jean-Marc, il fait partie des accompagnateurs du voyage missionnaire. Mais comme il y a du boulot, une fois qu'ils sont arrivés sur l'île de Chypre, à Salamine, ils, avec un S, annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. C'est-à-dire que Jean-Marc a été comme aspiré, promu automatiquement, parce qu'il y a tellement de succès, il y a tellement de moissons dans la vie de l'apôtre Paul et de Barnabas qu'il y a besoin d'hommes et de femmes qui font le boulot en backstage, comme on dit, derrière. Et sûrement quand l'apôtre Paul n'a plus de voix et que Barnabas a déjà est en train de dormir parce qu'il a prêché pendant des heures, eh bien, qui c'est qui arrive sur l'estrade? Jean-Marc. Et Jean-Marc les secondait, et donc il est dedans. Et c'est au moment où il a déjà enseigné les autres. Donc il est prédicateur, il a été lancé grâce à cousin Barnabas, parce que sa maman est une femme de foi. Lui, on ne sait pas qui il est, mais on se rend compte qu'il a un super pédigré. Hop, promu automatiquement. Sauf que, après quelques jours de ministère, la Bible ne nous dit pas pourquoi il a craqué. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Pourquoi il a craqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut provoquer le fait que Jean-Marc craque? Alors, soit il a le mal du pays, c'est qu'à dire « Maman me manque !» Derrière tous les grands hommes très courageux avec une grande armure, il y a quand même une maman qui est quelque part et qui manque. Peut-être que, moi c'est plutôt la deuxième opinion que je pense, c'est que quand il se compare aux autres, là, il dit « c'est pas ma place d'être ici, je suis pas au niveau hein. ». Barnabas m'a pris parce qu'il voyait en moi un potentiel, mais vous savez que des fois vos échecs, écoute bien, ça commence à devenir profond, souvent tes échecs spirituels sont liés au fait que dans ta tête, tu penses que tu ne vas pas réussir. Et quelque part, tu te dis, je ne suis pas appelé à vivre ça, je n'arriverai pas, je ne tiendrai pas, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Il y a un grand silence ce matin. Alors je vais aller plus loin sur Jean-Marc. pour vous voir avec vous qu'est-ce qui s'est passé 15 ans avant. 15 ans avant, en fait, Jean-Marc se retrouve quelque part dans la Bible. Vous savez où ? C'est dans un des évangiles. Un des évangiles va parler de Jean-Marc, et pas pour le meilleur. Donc ça fait la deuxième fois. Et ça commence à faire beaucoup. Parce que, en fait, vous savez, quand vous vous ratez spirituellement, il y aura toujours un témoin qui va le voir. Un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va, pardonnez-moi l'expression, qui va cafeter. Qui va dire, il n'a pas tenu. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Toute la tradition chrétienne est unanime sur ce point. En parlant d'un jeune homme dont on va lire l'histoire. Jésus-Christ est dans le moment le plus difficile de sa vie. Il est à Gethsémané, il est en train de vivre la passion où il a eu des grumeaux de sang qui sont apparus sur son front, tellement le niveau d'angoisse et de peur est élevé. À ce moment-là, un certain Simon, aussi appelé Pierre, sort une épée et essaye de défendre Jésus à sa façon en coupant l'oreille de Malchus. Jésus le guérit cet homme et dit « Laissez vos gourdins, laissez tout ça, vous qui me défendez. » Et puis il s'adresse à la foule qui est venue enragée en face de lui. Jésus leur dit au verset 48 « Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec des épées, des gourdins pour vous emparer de moi. J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il en est ainsi pour que les Écritures s'accomplissent. » Au verset 50, regardez. Alors tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Verset 51, un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Mais un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonnera le drap et s'enfuit tout nu. Courage, fuyons. Ça, c'est un champion, c'est un héros. Et dans la tradition de l'Église primitive, on se disait de bouche à oreille, tu sais, le jeune, là, la vérité, hein, on va transformer en langage courant, mais tu sais celui qui est parti à poil tellement il avait peur. C'est Jean-Marc. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Qui c'est qui a une super réputation dans l'Église? Qui c'est qui a une super réputation dans son travail ici? Vous êtes connu, pas pour le meilleur. Et il y a des bruits qui courent sur vous, et malheureusement qui sont fondés. Alors ça, c'était entre l'an 30 et l'an 35. Quand l'apôtre Paul fait son voyage missionnaire, on est entre l'an 47 et l'an 48. Ça veut dire que 15 ans après, Jean-Marc, à chaque fois qu'il y a de la panique, il y a du stress, il part chez maman. Alors, ce qui est tolérable quand vous êtes un garçon, parce qu'apparemment c'était un jeune homme, c'était peut-être un ado au moment où Jésus était là à Gethsémané. Bon, maintenant, c'est plus un ado, quoi. Alors, je te pose la question, quand est-ce que tu vas commencer à être sérieux? Parce que ce qui était excusable quand tu avais 17 ans, est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Oh là là. 2 ans plus tard, l'apôtre Paul revient dans l'église d'Antioche. Jean-Marc est présent dans les rangs, ça va chauffer. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, c'est ce qu'on a vu dans Actes 15, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons enseigné la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait amener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond. Le mot grec s'est atteint son paroxysme. Ils se séparèrent Barnabas, on a Marc, et Paul, pris Silas. Je ne sais pas si vous imaginez, pour que l'apôtre Paul et Barnabas, qui sont deux copains incroyables, puissent avoir une dispute aussi forte. Et tout ça à cause de qui ? Jean-Marc ! Non seulement c'est un lâcheur, mais en plus, il met la mauvaise ambiance dans les équipes. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'apôtre Paul, il a gardé au travers de la gorge. Je ne sais pas si l'apôtre Paul ressemble à certains ici, mais il y a parmi nous des personnes qui sont très très dures avec eux-mêmes. L'apôtre Paul dit « je traite durement mon corps ». L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui, lorsqu'il était loin de Dieu, loin de Christ, était capable de faire des kilomètres et des kilomètres de souffrance pour que la foi juive dans son intégrisme soit appliquée. Alors quand il est devenu chrétien, il appliquait les mêmes principes. Avec Dieu, tu marches. Et tu marches, et tu marches. Et celui qui va en arrière, il n'est pas digne de l'évangile. L'apôtre Paul, il en faut aussi des comme ça dans nos églises. Des personnes, ils sont en béton armé, quoi. Ça craquera jamais, quoi. Le caractère de l'apôtre Paul, c'est pour ça que Dieu lui a donné aussi un ministère particulier. C'est pas un grand orateur, l'apôtre Paul. Mais c'est quelqu'un qui ne craque jamais. J'ai appris à être heureux dans toute situation. Dans l'épreuve ou dans l'abondance, dans la maladie, dans la faim. J'ai appris. Wouh ! Bah, Jean-Marc, lui, il n'a pas appris. Il n'a pas appris. Alors, 10 ans plus tard, 10 ans plus tard, là, il faut faire une petite étude biblique pour avoir toutes ces dates-là. 10 ans plus tard, on arrive dans la fin des années 50, 55-60. L'apôtre Paul écrit une lettre à l'église de Colosse. Et qu'est-ce qu'il dit au sujet de Jean-Marc ? Donc, il écrit une lettre de toutes les personnes qu'il aime. Vous savez, à la fin d'une lettre, on fait des mamours, on fait des bisous, hein. On signe « Love »,« Je t'aime », etc. Et puis, la façon de l'apôtre Paul d'envoyer des bisous, c'est qu'il dit « Voilà, je recommande mon frère Onésime, il est top, un tel génial, fais de lui plein de « Dis-lui combien je l'aime », etc. » Et à la fin de la lettre de Colossiens, vous allez voir, il y a plein de belles choses. Et puis, il dit, donc, par exemple, au verset 9, « J'envoie avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère qui est l'un des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qu'il passe ici. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin Barnabas, qui s'appelle Marc. » Au sujet duquel vous avez reçu mes instructions, s'il vient vous voir, parce que c'est même pas sûr, faites-lui bon accueil. On va dire que c'est modéré comme recommandation. Après 10 ans, l'apôtre Paul, il a toujours au travers de la gorge. Et comment ça se fait ? Réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire pour que l'apôtre Paul écrive à Colosse et qu'il dise à l'église de Colosse, faites-lui bon accueil ? Vous croyez pas que l'église de Colosse, quand il y a un chrétien qui vient, on fait toujours bon accueil ? Vous me rassurez pas du tout pour la capacité de dire bonjour à quelqu'un dans l'église alors. Non mais si quelqu'un vient dans l'église que vous connaissez pas, vous lui faites pas un bon accueil ? Ben si, vous lui faites bon accueil. Donc ça va de soi de dire faites-lui bon accueil. Si l'apôtre Paul est obligé de dire... Faites-lui quand même bon accueil. C'est qu'à mon avis, les oreilles de Jean-Marc, quand il n'était pas là, ça a dû siffler. Dans l'église de Colosse, ceux qui ont dû se dire, ouais, non, mais Jean-Marc, on n'en parle pas, ce gars-là, il nous a lâchés en Pamphylie. Et que du coup, les frères de Colosse avaient un a priori hyper négatif sur Jean-Marc, à tel point que l'apôtre Paul se sent obligé de réécrire, mais juste un truc chrétien basique, s'il vous plaît. Faites-lui quand même bon accueil. Waouh! Waouh! L'apôtre Paul, faut pas le décevoir. Blacklisté. Il avait été blacklisté, Jean-Marc. Alors on voit que la sanction est terminée. Eh, dis donc, ça fait 12 ans! Ça fait 12 ans qu'il les a lâchés en Pamphylie. 12 ans après, l'apôtre Paul, il est toujours bloqué là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Vous aimez le savoir ? Ben moi aussi, j'aimerais le savoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qu'a fait Jean-Marc pendant ces 12 ans? Ben Jean-Marc, déjà, il est rentré à la maison voir maman. Mais seulement, à Jérusalem, il n'y avait pas que maman. Ah, ça va devenir très beau. Il y avait Monsieur Pierre. Monsieur Pierre qui était l'apôtre de l'église de Jérusalem, Simon Pierre. Alors là, vous voyez, je suis dans la deuxième partie, comment rebondir, et je remercie Dieu. Parce que celui qui veut apprendre, il peut apprendre avec Dieu. Est-ce que tu es enseignable? Si tu veux rebondir après une succession d'échecs, ça fait deux fois. Hein. La première fois, il était parti tout nul. Hein. La deuxième fois, il les a lâchés lorsqu'ils étaient en train d'évangéliser. Il y a un moment où Jean-Marc, il va falloir que les choses changent. Et pour que les choses changent, il va falloir que tu transformes l'échec en force. Mardi, j'ai eu un petit problème. J'avais fait une promesse à Dieu et je n'ai pas tenu ma promesse. Je suis arrivé devant Dieu et j'ai dit, Dieu, je t'avais promis quelque chose. Tu m'avais dit quelque chose. Non seulement je n'ai pas tenu ma promesse, mais je n'ai pas écouté ton avertissement. Et ce n'est pas comme si c'était la première fois. Et je sais que j'avais déjà grillé mon joker, Seigneur. Alors je me suis dit, Seigneur, comment rebondir après un second échec? Alors Jean-Marc, écoute bien. Est-ce que tu es prêt à être enseignable? Jean-Marc, il avait déjà commencé, vous savez, quand il est revenu de la mission avec l'apôtre Paul. Il avait sûrement prêché devant des foules en Pamphylie. Il arrive à Jérusalem, il se réinstalle dans les rangs. C'est arrivé à quelqu'un d'avoir un ministère quelque part ailleurs que dans cette église, d'être connu, d'être reconnu, on vous disait « Monsieur, vous étiez un ancien dans cette église ». Ou bien ma sœur qui est de là, tu étais connue comme une femme de prière, tu étais la responsable de l'accueil, tu gérais tous les enfants de l'église, etc. Aujourd'hui, tu es assis sur tes rangs, tu redémarres à zéro. C'est dur, hein? C'est dur des fois d'accepter d'être enseignable à nouveau après avoir enseigné les autres. Là, c'est plus Jean-Marc qui prêche aux autres. Là, c'est Jean-Marc qui s'assoit et qui écoute. Et il écoute ce que l'apôtre Pierre lui dit. Et moi, je suis heureux parce que Dieu est extraordinaire. Dieu ne te demande pas de raconter. Vous voyez, le problème de Jean-Marc, c'est s'il commence à raconter. Ah, j'étais un super prédicateur quand j'étais à Salamine. Ah, tu sais, à Paphos, j'ai fait une campagne d'évangélisation. C'était le feu. Non, tu te tais. Tu marches sur ton orgueil. Tu te poses sur ta chaise. Et là, tu dis, Pierre, raconte-moi ton histoire, parce que j'ai des choses à apprendre. Et là, je vois que l'apôtre Pierre va passer beaucoup de temps avec Jean-Marc. Vous savez pourquoi il va passer beaucoup de temps avec Jean-Marc? Qu'est-ce qui, dans la Bible, nous prouve que l'apôtre Pierre a passé beaucoup de temps avec Jean-Marc? C'est que Jean-Marc a été prendre une plume et des parchemins et a commencé à écrire en reprenant la base. Il a commencé à écrire ce qu'il fallait retenir de la foi. Et assis à côté de l'apôtre Pierre, Jean-Marc a commencé à écrire un verset, un chapitre, deux chapitres. 3 chapitres, 4 chapitres, 5 chapitres, 6 chapitres, 7 chapitres, 8 chapitres, 9 chapitres, 10 chapitres, 11 chapitres. Et les larmes devaient couler à chaque fois que Jean-Marc entendait Pierre qui lui disait « Tu sais quand on était dans le jardin là-bas, à Gethsémané, et que j'ai coupé l'oreille de Malchus, et bien quelques minutes après, lorsque j'étais près du feu, j'ai renié Christ. » Pas une fois, même pas deux fois, trois fois. Et tu t'en es sorti, dis donc Pierre. Ouais, je m'en suis sorti. Parce que je vais te raconter, Jean-Marc, une autre histoire. Un jour, un peu plus tard, j'étais sur le rivage. J'avais repris mes filets et je croyais même plus. Je croyais plus qu'il y avait Dieu de la seconde chance. Et là, j'ai vu Jésus qui est venu vers moi. Alors, à la fin, tout à la fin, si vous prenez l'évangile de Marc, aussi appelé Jean-Marc, vous verrez qu'il termine avec comment l'apôtre Pierre s'en est sorti. Pourquoi ? Parce que Dieu est extrêmement bon pour ses enfants, avec une patience infinie, là où l'apôtre Paul reste l'apôtre Paul, avec toute l'admiration qu'on a pour l'apôtre Paul. Dieu a accepté de donner une autre chance à Jean-Marc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de sa vie, l'apôtre Paul, et ça vous lisez dans 2 Timothée, alors qu'on est cette fois-ci en 65, à peu près, lorsqu'il est écrit le deuxième épître de Paul à Timothée, Paul écrit à propos de Jean-Marc, et il écrit à Timothée, il dit, s'il te plaît, envoie Jean-Marc avec toi, parce qu'il est très utile pour mon ministère. Oh ! C'est que c'est l'apôtre Paul qui écrit non pas une lettre de dire, il est devenu pas trop mal ce jeune, mais c'est l'apôtre Paul qui écrit en disant, s'il y en a un dont j'ai besoin, c'est Jean-Marc. S'il y en a un dont j'ai besoin, c'est Jean-Marc. Alors comment ça se fait que Jean-Marc a pu rebondir comme ça? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, premièrement, il a redémarré en bas de l'échelle. Deuxièmement, il n'a pas passé sous silence ses échecs. Qui c'est qui a écrit l'histoire du jeune homme qui a couru à poil parce qu'il avait trop peur? C'est lui-même. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Et c'est le seul évangile qu'on parle. Ah ben ça change la façon de voir les choses. C'est-à-dire que Jean-Marc a été, je pense que c'est parce qu'il a vu Pierre et que Pierre acceptait d'affronter ses échecs. Jean-Marc a dit, ok, j'affronte les miens aussi. Est-ce que tu réalises que Dieu peut rien faire avec toi tant que tu minimises? Tant que tu essayes de passer sous silence tes échecs, tu n'avanceras jamais. Beaucoup d'entre vous sont d'échec en échec. Vous avez une succession d'échecs. Vous ne tenez pas vos promesses, vous ne tenez pas vos paroles. Pourquoi? Parce que vous vous donnez des excuses ou vous minimisez vos erreurs. Alors tu vas trouver plein d'excuses. Je peux te dire une chose, si tu veux t'en sortir, il faut que tu détestes ce qui fait que tu retournes vers le bas. Il faut que tu aies vraiment, que tu détestes, mais profondément. Tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas progresser si tu n'as pas au fond de toi. Je pense que Jean-Marc l'a eu, il s'est dit, c'est fini maintenant, il faut qu'un jour j'arrive à grandir. Quoi. Je ne vais pas être connu comme le raté, celui qui ne fait que des démarrages et qui ne finit jamais. Pour certains d'entre vous, je vais parler un tout petit peu concret quand même. Comment ça se fait que depuis des années, tu as un problème? On va te donner des détails, des choses. Tu arrives toujours en retard à tous tes rendez-vous. Et c'est incroyable quand même. Aujourd'hui, on a des alarmes, on a des montres, on a des trucs internet. Je veux dire, arrête quoi. Il y a un moment où, si tu arrives en retard, c'est parce que tu vas finir par te donner des excuses. Ah, mais tu sais, moi c'est comme ça depuis que je suis petit. C'est ma culture. Ah, j'aime bien prendre mon temps. Je fais les choses bien, tu sais. Ok. T'as pas fini d'être en retard. Hein. Dans 10 ans, tu seras encore au même niveau. Hein. Certains, vous avez un vrai problème. Je parle tous les jeunes qui vont avoir leur bac. Là. Vous avez un vrai problème pour vous mettre au boulot. Mais il y a un moment où ça sera le travail ou la PlayStation, quoi. Tu ne peux pas vouloir à la fois de la réussite dans ton travail et pas prendre les moyens. Il y a un moment où il faut que tu détestes vraiment ton attitude. Si tu n'es pas, si c'est simplement pour faire plaisir à quelqu'un parce que ta mère, ton père te met les pressions, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que dès qu'ils ne seront pas là, hop, tu vas reprendre le truc. Il y a un moment où c'est toi, il faut que tu grandisses par rapport à toi-même. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je vais? Mais même pour vous, là je parle des plus jeunes, mais je vais parler des plus vieux là. Est-ce que lorsque tu dis que tu veux lire ta Bible chaque jour, tu prends les moyens ou quoi? Je peux te dire une chose. Si tu éteins la télé, tu mets une heure limite. À partir de telle heure, la télé elle est éteinte, c'est tout. Mais il faut vraiment détester le fait de ne pas lire sa Bible. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que sinon, vous n'en sortirez jamais. C'est un problème par rapport à la pornographie. Il y a entre Internet et la porno, et si c'est ça qui te pose problème, tu vas devoir mettre des solutions, tu vas mettre des correctifs en place. Soit tu donnes ton ordinateur à ta mamie, qui sera très contente à condition qu'elle le sache l'utiliser. Ton petit neveu, ça serait peut-être plus intelligent. Mais il y a un moment où, je ne dis pas pour toujours, mais fais-toi un programme. Tu dis voilà, j'ai décidé que cette semaine, je vais monter la barre. Commence pas à dire pour les 14 années qui viennent, Seigneur, je vais monter la barre, parce que fais déjà ta semaine, c'est pas mal. Mais il y a un moment où tu vas devoir être sérieux par rapport à ça. Arrête de te trouver des excuses. C'est incroyable le nombre de chrétiens qui, par rapport, notamment, je vais être vrai ce matin, soyons vrais, hein. Je suis transparent avec vous, mais sur la notion de dîme, qui sont persuadés, ils disent, Seigneur, je veux faire, Seigneur, je veux te donner, Seigneur, je veux te donner. Mais en fait, je suis désolé, hein, si vous le voulez vraiment, EDF et GDF, eux, vous les payez. Pourquoi? Parce que EDF et GDF, ils ne vous demandent pas votre avis. Hein. Moi, je sais que j'ai une femme qui est hyper rigoureuse, donc je n'ai pas de risque. Mais moi, si je n'avais pas ma femme, je mettrais un prélèvement automatique. Enfin, je ne sais pas, je mettrais un truc automatique parce que je sais que déjà, j'y pense pas. Si c'est en fin de mois, c'est fini, j'ai oublié. Donc, si on est en galère, etc. après. Donc, il y a un moment, si tu veux changer les choses, faut que tu anticipes et il faut que tu mettes des rigueurs qui soient meilleures que toi. Est-ce que tout le monde doit le faire? Non! Est-ce que je demande à tout le monde d'arrêter la télé le soir? Non! Est-ce que je demande à tout le monde de donner son ordinateur et d'abandonner la PlayStation? Non! Est-ce que je demande à tout le monde de mettre des prélèvements automatiques ou de... Mais non! Mais je sais que chacun d'entre vous, vous avez un domaine dans lequel vous n'assurez pas. Et sur ce domaine dans lequel tu n'assures pas, tu ne peux pas avoir les mêmes limites que ta voisine. Parce que ta voisine, elle n'a aucun problème avec ça. Donc si jamais on est une secte, on met des lois à tout le monde, et c'est une catastrophe, mais à l'inverse, si jamais chacun ne fait pas les efforts sur le domaine dans lequel il a des soucis, vous avancerez pas. Et vous allez voir les autres progresser. Et vous allez dire, mais pourquoi moi je suis en échec? Parce que sur ce qui est pour toi un problème, tu dois être plus sérieux que les autres. Et Jean-Marc, lorsqu'il a repris à zéro avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, je pense, c'est ça. Écoutez bien, je termine avec ça. Il faut que je termine là-dessus, je conclue là-dessus. Mais l'apôtre Paul, il est tellement carré dans sa tête que 1 plus 1 égale 2, quoi. C'est un mathématicien spirituel, l'apôtre Paul. Jean-Marc égale un caractère défectueux un jour en Pamphylie. Signe égal, l'équation selon l'apôtre Paul. Jean-Marc est défectueux. Terminé. Tu mets ton prénom à un défaut égal est défectueuse. Ben non, c'est pas vrai. Parce que vous n'êtes pas caractérisé par uniquement votre échec. Est-ce que tu comprends que le diable veut mettre un label d'échec sur ta vie? Et qui veut te dire, ben, t'es comme ça. T'es nul. Voilà, tu ne seras jamais sérieuse dans tes finances. Tu ne seras jamais à l'heure à un rendez-vous. Tu ne seras jamais capable de faire ceci ou cela. De toute façon, tu n'arrives pas à lire ta Bible plus de 5 minutes. De toute façon. Et tu mets ton label dessus, là, et après, tu te sens complètement bloqué. Jean-Marc a rebondi et a transformé le problème en force. Moi, mardi soir, lorsque je suis arrivé devant mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, je mets un programme carré. Pourquoi? Parce que je savais qu'autrement, si je ne me mets pas un programme carré derrière, je risque d'être faible. Un autre ne le serait pas à ma place. Mais moi, dans ce domaine-là, je veux que Dieu m'amène à l'étape d'après. Je veux que Dieu m'amène plus loin. L'apôtre Paul a changé de vision sur Jean-Marc. Parce que quand il écrit, Jean-Marc est utile pour mon ministère. Vous savez pourquoi Jean-Marc était utile pour le ministère de l'apôtre Paul? Est-ce que vous savez pourquoi Jean-Marc a été utile pour le ministère de l'apôtre Paul? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes pendant quelques années en prison? Vous avez envie de lire, mes amis. Et pour que vous puissiez lire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait écrit. Et pour que quelqu'un ait écrit, il faut que ce jeune homme sache écrire le grec. Et il faut que cette personne ait passé du temps avec l'apôtre Pierre. Et il faut que cette personne ait été extrêmement rigoureuse dans sa prise de notes. Et quand l'apôtre Paul reçoit le manuscrit, certainement de Jean-Marc dans la prison, qui ça sera l'évangile de Marc que vous avez aujourd'hui, il dit « Waouh, c'est génial !» Et c'est marrant, parce que, oh, ce n'est pas marrant, c'est juste la grâce de Dieu. Vous savez quelle est la caractéristique de l'évangile de Marc? Il y a une caractéristique. Vous avez l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Il y a une caractéristique de l'évangile de Marc. C'est l'évangile qui, de tous ces évangiles-là, relate le plus de miracles. Un miracle, c'est quand quelqu'un est d'une certaine façon et qui change. C'est ça le miracle. C'est quelqu'un qui était boiteux, qui marche. C'est quelqu'un qui était aveugle, qui voit. C'était quelqu'un qui était en échec et qui réussit. Alléluia. On va fermer les yeux ensemble. Je crois que Dieu peut te rendre utile dans ton ministère. Est-ce que Dieu t'a appelé à être un prédicateur international, Jean-Marc? Non. Par contre, Dieu t'a demandé d'apprendre de tes échecs. Il ne t'a pas demandé de copier Barnabas, tu ne seras jamais Barnabas. Il ne t'a pas demandé d'avoir la façon de parler, l'éloquence des autres, tu ne l'auras jamais. Alors arrête de vouloir faire comme les autres et commence à définir qu'est-ce que Dieu attend de toi, vraiment. Dieu t'attend que tu sois enseignable. Dieu attend que tu ne passes pas sous silence tes problèmes. Dieu attend de toi que tu puisses retrouver ta persévérance, parce que pour écrire un évangile, il faut être sérieusement persévérant. Car à chacun, Dieu a donné un don. Apôtre Pierre écrit, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Vous avez tous un don. Oui, Jean-Marc, tu as un don. Tu as une réputation de lâcheur, de quelqu'un qui ne tient pas la route, de quelqu'un qui abandonne. Mais je voudrais te dire, tu as un don. Alors arrête. Arrête de mettre de côté le don que Dieu a prévu pour toi. Que celui qui transmette les paroles de Dieu le fasse, mais que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu lui donne. Apôtre Paul était celui qui avait le ministère de la parole. Jean-Marc n'avait pas le ministère de la parole. Jean-Marc avait un ministère pour écrire, parce qu'il était cultivé en grec, il était capable d'écrire un évangile et il est capable de relater les miracles. Dieu est d'accord que tu mettes ta touche personnelle, parce que Dieu respecte ta personnalité. Et Jean-Marc a été indispensable. Il a écrit la Bible, mes amis, c'est quand même fou! Que quelqu'un qui est lâché comme ça, qui soit parti tout nu à un moment, qui a abandonné en Pamphylie, il a écrit un des plus beaux livres de la Bible, mes amis. Alors arrête de croire que tu vaux rien. Maintenant, ce matin, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu es prêt à te reconsacrer pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à l'adorer de nouveau, à dire « Seigneur, je ne sais pas où j'ai pu lâcher ta main, je ne sais pas où j'ai... Je veux confronter ça, je veux travailler. Pourquoi j'ai craqué ?» Je veux continuer, Seigneur, et je veux reprendre le chemin. On va se lever ensemble. Alléluia.
Dans ce désert de lassitude, où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes.
Seigneur Jésus, Seigneur, tu n'as pas devant toi des héros, Seigneur, tu as des enfants de Dieu, et c'est pas avec nos mérites que nous venons vers toi, Seigneur, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de l'apôtre Paul ici ce matin, Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de personnes aussi courageuses que la maman de Jean-Marc. Il y en a quelques-uns et on te bénit pour elles. Mais Seigneur, je te prie pour tous les Jean-Marc qui sont dans cette salle, toutes les femmes qui ressemblent à Jean-Marc dans cette salle, tous les hommes, les jeunes, les moins jeunes qui ressemblent à Jean-Marc, Seigneur, ce matin.